feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, grand bonjour à tous, grand bonjour à toutes, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui va nous partager ses ondes positives. Les ondes positives, c'est pas forcément la vie en rose, c'est pas forcément tout va bien, c'est la vie que j'ai envie de m'engager, dans laquelle j'ai envie de vivre, dans laquelle j'ai envie de rencontrer. Madame, mesdemoiselles, messieurs, lui, c'est sous le prisme de l'entrepreneuriat, puis on verra peut-être d'autres prismes après, dans l'émission. C'est le prisme de l'entrepreneuriat qui lui donne l'envie d'agir. C'est Nicolas Fortier, mon invité.
So good, so good, I got you.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Oh, le micro est trop loin de toi, j'ai pas fait attention.
J'ai la voix qui porte.
Voilà, on va le rapprocher, voilà, tout bien. Voilà. Nicolas, effectivement, c'est par le prisme de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui tu es chef d'une belle entreprise, en deux mots.
Absolument, EML Menuiserie, une belle entreprise PME de 23 personnes maintenant aujourd'hui, basée sur 9 maisons. Spécialisé dans les travaux de menuiserie, bois et agencement, voilà, que j'ai repris avec joie il y a 20 mois maintenant.
Et pourtant, tu n'es ni forestier, ni menuisier, ni travailleur du bois.
Rien de tout ça. Ouais, je gère, je manage et je vends.
Donc ces trois mots-là, ces trois mots importants pour toi.
C'est la colonne vertébrale de toute ma carrière, management, gestion, commerce, depuis mes premières armes en 97 jusqu'à aujourd'hui.
Alors on pourrait dire, bah, c'est un requin ce mec-là, il veut se faire du pognon plein pot sur le dos des autres, sur, c'est ça un entrepreneur ?
Ce serait bien mal me connaître.
Et j'avoue, je te connais un peu.
Oui, je pense aussi. Donc,
c'est pour ça que je t'ai invité.
J'ai bien entendu, je reconnais.
L'émission va être courte aujourd'hui.
Le taquin. Voilà. Non, c'est bien évidemment tout le contraire, c'est déjà la passion d'entreprendre. La passion de manager, de travailler avec des hommes, des femmes. Faut jamais oublier qu'une entreprise est composée avant tout par ses équipes et qu'il faut évidemment leur rendre hommage. C'est travailler pour ses clients, c'est dans le cas de ML Menuiserie aussi, et ça a été déterminant dans le choix de l'entreprise que j'ai reprise il y a 20 mois, la satisfaction d'une usine de production, cette capacité à concevoir les produits sur mesure la plupart du temps, à les fabriquer, à les poser, puisque EML intervient sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et voilà, une vraie satisfaction au final, de par le travail de toutes ces équipes, de voir un produit fini, installé, utilisé. Voilà, c'est fondamental.
Alors c'était, tu disais, une reprise il y a 20 mois.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette entreprise-là ? Quel défi d'entreprise et peut-être quel défi personnel y en avait-il ?
Alors le défi personnel avant tout, puisque ma carrière donc a démarré en 97, s'est construite bien évidemment au fil du temps, mais a toujours été très orientée sur des postes de direction. Donc j'ai commencé comme directeur de centre auto chez Feuvert, puis chez Autobax, puis très rapidement ensuite j'ai pris des directions générales de filiales de PME industrielles. J'ai travaillé comme directeur commercial sur des gros groupes également, dans l'industrie, dans le service, en B2B, en B2C, donc
finalement... Grande consommation ou entreprise.
Exactement, donc finalement une carrière assez hétérogène, mais qui m'a permis également d'acquérir un certain nombre de compétences utiles aujourd'hui à la gestion d'une entreprise. Mais voilà, disons que J'avais quand même, quand j'ai donc un vrai défi personnel, puisque je veux dire, j'ai décidé de basculer vers la reprise d'entreprise, j'avais 50 ans, une carrière déjà...
Ça correspond aussi à une tranche d'âge où on a envie de se lancer des nouveaux défis aussi, non?
Il semblerait, en tout cas ça a été mon cas. Une décision pas forcément simple à prendre, dire quand on est installé depuis... une petite trentaine d'années sur des postes de direction à forte responsabilité, bien installé, avec le confort de l'emploi salarié, comme j'avais l'oublié. C'est un défi...
ça change tout au tout, quand même.
Un vrai défi à relever, dont on prend réellement conscience une fois qu'on est dedans. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai zéro regret, parce que c'est pour moi une nouvelle façon de me révéler et de m'épanouir pour les 15 à 20 années à venir.
On peut revenir sur le challenge à la cinquantaine, c'est-à-dire que quitter, tu le dis humblement, modestement, c'est quand même un certain confort, en plus, poste de direction, donc voilà, ça va bien, voilà, mais salarié, donc c'est une sécurité quand même, avec le risque du chômage pour la boîte qui va pas, qu'est-ce qui t'a fait franchir les étapes en te disant c'est ok, je peux y aller vers l'entrepreneuriat, même s'il faut y être pour s'en rendre compte complètement. Mais dis-nous voir un petit peu toi, qu'est-ce qui t'a fait passer les feux verts, ouvrir les barrières.
Ce sont des éléments éminemment personnels, bien évidemment. Je pense qu'à un moment donné, quand on travaille pendant plusieurs dizaines d'années, au service de ses clients, au service de ses équipes, sous la responsabilité d'eux, c'est-à-dire qu'avec des comptes à rendre, il se peut qu'à un moment donné, et ça a été mon cas, on ait envie de se réaliser autrement et qu'on ait surtout envie, qu'on éprouve le besoin d'assumer pleinement dans les bons moments comme dans les moins bons, les décisions qu'on peut être amené à prendre. Moi, ça a été mon cas. J'ai vraiment eu besoin de me révéler de cette façon-là. C'est en reprenant une entreprise et en ayant vraiment les rênes de l'entreprise et en assumant pleinement les décisions qu'on prend, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, qu'on peut se révéler comme tel.
Le mot responsabilité, tu dis assumer pleinement, dis se réaliser. Le mot responsabilité, c'est un mot qui t'a jamais fait peur, alors ça veut dire...
Jamais. Depuis tout petit, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai du caractère et que c'est quelque chose... Alors, je me suis construit au fil de la vie, au travers des épreuves, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Je me suis construit aussi avec ma famille. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. J'ai jamais eu peur de prendre mes responsabilités. Je pense que je les ai toujours prises, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est probablement la raison pour laquelle je me suis toujours épanoui sur des postes de direction.
Alors, je fais un peu de teasing, mais écoutez l'émission jusqu'au bout parce qu'on va avoir les trois dates importantes de Nicolas Fortier et tout ça va se relier dans quelques instants. C'est pour inviter les auditeurs et téléspectateurs à aller jusqu'au bout. Mais alors, Nicolas, pour autant, est-ce que tu étais du style à être délégué de classe quand tu étais petit ou pas ?
Alors non.
C'est ça qui...
Oui, très, très étonnamment. Ouais. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est que... Je suis quelqu'un de nature plutôt très introverti.
Ça n'a pas été facile de te convaincre de venir parler de toi. C'est vrai, j'avoue, je reconnais. C'était pas facile et le concept de l'émission te gênait particulièrement.
Alors, pas le concept de l'émission, mais que je trouve plutôt très intéressant. Je suis quelqu'un de nature plutôt très introverti.
Et pourtant, t'es manager.
J'aime pas la lumière. Oui, mais ça, on va en reparler.
Alors justement,
Lumière et j'aime pas parler de moi. Mais pour autant, j'aime beaucoup mettre en lumière le travail de mes équipes. Et je trouve beaucoup plus intéressant de parler du travail de mes équipes et de mes équipes que de parler de moi, parce que finalement, le job d'un manager ou d'un chef d'entreprise, c'est de faire en sorte de mettre du liant dans le bon fonctionnement des équipes, le fonctionnement interservices. Mais moi, je pars du principe que, une fois de plus, c'est avant tout de valoriser les gens avec qui je travaille, parce que c'est eux qui font l'entreprise.
Mais alors, ouais, d'accord, mais... C'est quand même aujourd'hui, on le dit partout, faire travailler en équipe c'est difficile, on voit bien qu'il y a une segmentation des tâches aussi parce que c'est plus facile de gérer individuellement des petits groupes, voilà. Ça fait pas peur dans le monde d'aujourd'hui de prendre cette responsabilité-là. Alors j'entends la volonté de ne pas être grand opérateur et manitou et grand chef de tout, mais assembleur plutôt et assemblier.
Ça pourrait faire peur. Après, voilà, je reste aussi à la place qui est la mienne. Hein. Je dirige une entreprise d'une vingtaine de salariés. Je suis pas à la tête d'une multinationale.
Mais ça te plaît.
Oui, justement. Beaucoup. Beaucoup. C'était un des éléments très importants de ma fiche repreneur-entrepreneur quand j'ai commencé à me mettre en quête d'une entreprise à racheter. Il fallait que cette entreprise soit à taille humaine. Donc pour moi, une taille humaine, c'est voilà, maximum 30 salariés, parce que c'est la taille qui permet justement de rester au contact au quotidien de chacun et chacune d'entre eux, d'entre elles. Et voilà, et la vie d'un chef d'entreprise, c'est aussi et avant tout les matins, et c'est ce que je m'emploie à faire. De passer à l'atelier pour saluer tout le monde, pour prendre des nouvelles quand on sait que
un
collaborateur est un peu plus en difficulté ou traverse une période un peu plus compliquée, c'est voilà, essayer d'être humain.
Mais alors qu'est-ce qui aujourd'hui dans cette volonté d'entrepreneuriat, repreneuriat, parce qu'on
repreneuriat,
on est dans cette problématique-là dont on entend beaucoup parler autour de nous, on a pas mal d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu prends ton pied dans 20 mois après, est-ce que l'objectif de KIF est atteint?
Alors oui, l'objectif de KIF est atteint, non sans difficulté, hein, puisque une fois de plus, il y a dans la reprise d'entreprise, il y a tout un cheminement qui est, on va dire, standard et prévisible, et puis il y a tout ce qui n'est pas prévisible. Donc il y a toute une partie à laquelle on peut se préparer, et puis il y a toute une partie à laquelle on ne peut pas se préparer. Voire l'anticiper, parce que on la vit quand on est au pied du mur.
Un petit coup d'Ukraine, c'était pas forcément prévu.
Mais exactement, il y a un certain nombre de
endogènes, exogènes.
Un certain nombre de sujets auxquels j'ai été confronté que j'avais pas forcément anticipé, comme la guerre en Ukraine et je veux dire
comment t'as pas anticipé ça quand même, franchement.
Oui, c'est honte à moi, mais la pénurie des matières premières et la hausse des prix que ça a pu engendrer.
Ça a bien transformé le secteur quand même.
Complètement, et ça a été un vrai souci. La carence de ressources humaines, la difficulté de recrutement, notamment sur des métiers comme le mien, où on est quand même sur des ouvriers spécialisés. Voilà, toutes ces choses-là, on les gère quand elles se présentent. Et force est de constater que ces deux dernières années ne nous ont pas épargnés, particulièrement sur ces sujets. Voilà, après, je me lève tous les matins avec la banane, avec l'envie de faire mieux que la veille et moins bien que le lendemain, et surtout voilà, avec cette volonté d'entraîner mes équipes derrière moi pour leur donner à elles aussi l'envie de se lever et leur donner une vraie vision, leur apporter une vraie vision, leur permettre d'avoir du sens, leur donner du sens dans leur quotidien.
On s'attache beaucoup à ces 20 derniers mois. Alors, une dernière question sur les 20 derniers mois, justement. Oui. En 20 mois, un truc qui t'a vraiment fait plaisir depuis que tu as repris cette entreprise?
C'est une question pas forcément très simple.
Si tu veux, on peut se la garder, puis on la reprend après la pause musicale.
Oui, laisse-moi le temps d'y réfléchir.
Ah, pas de problème. Ouais. Je
parce que j'ai plusieurs idées.
Je la lâche pas, mais la pause musicale, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite la pause musicale, parce que avant, je voudrais qu'on évoque aussi l'entrepreneur-repreneur qui était salarié avant, mais qui depuis longtemps dans le milieu de l'économie, s'est aussi fortement investi dans un écosystème local.
Oui, je suis d'origine lorraine et fier de l'être puisque voilà je suis né à Vitel, j'ai grandi à Contrex, donc
t'es vosgien quoi.
Pire que ça, je suis vosgien, mais c'est effectivement et fier de l'être, je le revendique. J'ai fait mes études sur Nancy, mais je suis parti assez rapidement sur la région parisienne, et donc en fait je ne suis revenu sur le territoire lorrain que en 2013. C'était une volonté très affirmée de ma part de revenir en Lorraine, parce que je suis très attaché à mon territoire et je suis très attaché à mes racines. Et effectivement, assez rapidement, avant même d'être entrepreneur moi-même, j'ai souhaité m'investir territorialement parlant dans l'entrepreneuriat local. Ce que j'ai fait, ce que je fais encore avec beaucoup de bonheur et de fierté, sur en m'investissant dans des associations comme Initiative Grand Nancy, qui est une des associations, une des antennes locales d'Initiative France, qui distribue des prêts d'honneur à des entrepreneurs.
Plutôt des jeunes entrepreneurs,
des moins jeunes aussi, sur des projets très hétérogènes.
Primo entrepreneur plutôt, c'est
majoritairement, mais pas que.
Hein,
majoritairement, mais pas que. Et on voit d'ailleurs de plus en plus aujourd'hui de projets innovants sortir des cartons. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à cette association qui est constituée de trois salariés qui la dirigent, mais qui est constituée également au niveau des comités d'agrément, de bénévoles, exclusivement de bénévoles, qui sont entrepreneurs pour la plupart, comme je le suis, et qui font vivre le système. Ça c'est un de mes engagements. Et puis j'ai aussi la chance de faire partie d'une autre association de business angel qui s'appelle YIST, qui elle est plus tournée sur des startups, le financement de startups au travers de levées de fonds. Mais cette volonté, de toute façon, d'être très impliqué territorialement parlant sur l'économie locale.
Toujours l'engagement local. Alors Nicolas, vous avez entendu, il nous a dit qu'il était un peu timide, un peu timoré, donc il s'est dit je vais mettre une musique de 5 minutes, en espérant bien comme ça que ça m'enlèvera plus que 20 minutes de parole. Ce qu'il ne sait pas, Nicolas, c'est que pour écouter de la musique, il y a d'autres émissions sur RCN, donc on va s'écouter un tout petit peu Phil Collins.
I can feel it.
C'était Phil Collins sur RCN.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Ah, c'était long de revenir en studio parce que je vois le temps filer, Nicolas, on n'aura pas le temps de se parler. Pourquoi Phil Collins ? Oh, la musique, ça compte chez toi.
La musique, ça compte beaucoup.
Les micros, beaucoup moins, par contre.
Oui, beaucoup moins le micro, oui, tout à fait. Oui. Et pourquoi Phil Collins ? Parce que c'est toute mon adolescence, c'est Genesis, c'est... C'est des séries comme Miami Vice, c'est voilà, c'est et cette chanson me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute.
Et j'aurais aimé l'écouter en entier. Oui, voilà, t'aurais aimé l'écouter en entier, mais il y a d'autres moments pour ça voilà. Dans la vie. Par contre, voilà, tu commences à te dévoiler. C'est la deuxième partie de l'émission et c'est les comme d'habitude dans l'émission, c'est trois dates importantes. Et Nicolas, t'as fait le choix, toi qui es pourtant assez discret, t'as fait le choix de trois dates perso dans ta vie.
Oui.
La première. 7 janvier, comme ça on aura sa date de naissance, 7 janvier 1976, un gamin est arrivé dans ta vie.
Absolument, ouais, absolument. Ce gamin, c'est mon petit frère, Aurélien, de 4 ans, mon cadet. Alors, je vais rester discret, hein, je te rassure, mais voilà, pourquoi cette date pour une raison simple, c'est que voilà, on a des relations avec mon frère qui sont extrêmement fortes, extrêmement profondes. Et je reste convaincu aujourd'hui que je ne serais pas la même personne si mon frère n'avait pas existé dans ma vie.
Pourquoi ? Un petit frère, ça compte tant que ça dans la vie ? Peut-être le grand frère, pourtant le grand frère, c'est lui qui doit...
Oui, alors je suis le grand frère, mais c'est vrai qu'on a une telle complicité qu'on se soutient, on s'est toujours soutenu et on se soutient mutuellement depuis toujours. Et parfois, on se demande lequel est le grand frère et lequel est le petit. Et voilà, on a reçu une éducation, une enfance, on n'en a pas parlé, mais j'en dis un mot quand même, une enfance très, très heureuse, très choyée.
Ici,
à Contrexéville, ouais, à Contrexéville, absolument.
J'avoue, les Vosges, c'est un peu ici quand même.
Oui, ouais, absolument, ouais. Absolument. Voilà, et cette éducation, cet amour qu'on a reçu de nos parents, une maman très présente aussi, a probablement beaucoup joué sur les relations qui sont les nôtres aujourd'hui. Deux garçons, absolument.
Unis.
Oui, vraiment. Vraiment, et l'illustration parfaite que les contraires s'attirent.
Ah oui ?
Oui.
Bon alors, donc le prénom du frère, c'est Aurélien Fortier. On le connaît peut-être un peu parce que il s'occupe un peu d'un petit club de basket qui monte. Voilà, voilà. Ouais. Le Stuc Basket, voilà. Voilà. Alors vas-y.
Bah, il est autant.
Tu disais les contraires.
Mais oui, parce voilà. Que Aurélien est autant extraverti. Oui, mais autant extraverti que je peux être introverti. Autant rond, diplomate, que je peux être entier et parfois abrupt. Voilà. Et pour autant, voilà, une intimité, des relations, une compréhension, des affinités énormes qui m'ont permis de me construire aussi tel que je suis aujourd'hui, j'en suis convaincu.
Mais alors ça veut dire, c'est la place de la fraternité. Éternité de la fratrie aussi, enfin voilà, dans ta vie, ça veut dire que c'était essentiel.
Oui, Vraiment, c'est que quand j'ai eu besoin de voilà, quand j'ai eu besoin de conseils et quand j'ai besoin de conseils, c'est à lui que je les demande. On a cette force de savoir se dire les choses sans
même quand c'est désagréable, même quand vous engueulez.
Et surtout quand c'est désagréable, mais on ne s'engueule jamais.
Trois petits points. Deuxième date importante dans ta vie, le 20 juin 2003.
Le 20 juin 2003.
On a vu le frère.
Ouais. Maintenant, on voit le fils. Le 20 juin 2003, c'est la naissance de Corentin, mon fils aîné. Pourquoi le 20 juin 2003 ? J'ai eu deux autres enfants derrière, hein, Arthur et Maïlis. Je tiens à préciser ici que je les aime tous les trois tout autant, parce que s'ils écoutent l'émission, je voudrais pas avoir de problème en rentrant à la maison.
Mais donc c'était la dernière interview de Nicolas Fortier en direct. Voilà.
Mais le 20 juin 2003, c'est la date à laquelle je deviens papa. Et dans une vie, c'est un tournant majeur. C'était une vraie volonté de ma part de fonder une famille. Et voilà, à cette date-là, je pense que c'est à cette date que j'ai vraiment commencé à faire la part des choses entre ma vie professionnelle dans laquelle j'étais investi pleinement et ma vie personnelle que je négligeais peut-être jusqu'alors. Mais voilà, là, l'arrivée de Corentin, puis d'Arthur et de Maïlys derrière, voilà. Et le premier, ça reste le premier.
C'est le coup d'envoi.
C'est le coup d'envoi, exactement. Et c'est vrai que pour ne rien gâcher, voilà, j'ai toujours eu et j'ai encore aujourd'hui avec Corentin une complicité assez forte.
Mais c'est aussi la charge de la responsabilité.
Exactement.
Hein, ça renvoie quand même vers la première partie de l'émission.
Exactement. Preuve que je n'ai jamais fui mes responsabilités, puisqu'il y a eu Arthur et Maïlys derrière.
Troisième date importante dans ta vie, c'est aussi ce clin d'œil que je faisais en début d'émission en disant que ce n'est pas toujours la vie rose, I feel good, c'est aussi des étapes importantes
oui.
qui peuvent être marquées par des départs.
Oui, le 12 septembre. De l'année dernière, avec le décès de mon papa.
Alors de votre papa, j'ai envie de dire, parce que
papa,
tu parlais de fraternité.
J'allais y venir, justement. Oui, alors, ouais. Un événement évidemment marquant, puisque même si j'avais déjà été touché par la mort dans ma vie, c'est la première fois que c'est un parent qui décède, mon papa en l'occurrence. Des moments très difficiles dans l'accompagnement, mais qui ont une fois de plus
avec des vraies questions, des vrais questionnements,
mais qui ont aussi permis de renforcer, si tant est que c'eût été possible, la complicité avec Aurélien, puisque on a vraiment vécu ça de manière très forte et tous les deux. Et puis je dirais, si on veut vraiment rester positif, puisque I feel good.
C'est quoi le feel good de ça?
Le feel good de ça, c'est que ça a vraiment été pour moi un tournant, dans le sens où j'ai vraiment décidé à ce moment-là de ne plus m'encombrer de choses dont j'avais plus envie ou que j'avais plus envie de vivre, et de vraiment mordre la vie à pleines dents. D'aller de l'avant.
Merci Nico, on avait débuté l'émission, je te disais, depuis le début de la saison, là, j'ai que des super invités, c'est formidable tout ça. Tu m'avais dit que c'était pas garanti qu'on arriverait jusqu'au bout. Merci pour ce témoignage en profondeur et en humanité.
Merci à toi.
À bientôt.
Merci beaucoup, à très vite.
Merci de ton amitié.